Hello tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis ravie, je suis à Lausanne et j'ai la chance de passer un moment avec Géraldine de Green Beauty Square qui a une histoire entrepreneuriale assez incroyable. Je connais Géraldine maintenant depuis un peu plus de 2 ans.
C'est ça.
Et du coup, je suis son parcours depuis le tout début et je me réjouis qu'elle nous en dise plus et qu'elle nous raconte un petit peu lors de ce podcast. Alors Géraldine, raconte, c'est quoi Green Beauty Square?
Alors tout d'abord, merci Émilie de me proposer ce podcast, c'est vraiment chouette de pouvoir partager l'expérience. Donc Green Beauty Square, c'est un espèce de mix entre une entreprise de produits et de services, dans le sens où ce que je voulais avant tout, c'était aider les gens à prendre soin d'eux au naturel et à soigner leurs problèmes de peau au naturel, parce que j'ai eu une horrible acné adulte qui m'a défigurée pendant passablement d'années à passer 30 ans. Et puis à côté de ça, je suis en train de créer diverses gammes de cosmétiques naturels pour aussi répondre à une demande de gens qui veulent simplement acheter des produits. Pour faire large, ça serait un petit peu ça l'idée.
Ah mais c'est génial. Et ça fait combien de temps alors maintenant que ça existe?
Alors l'idée de base, je l'ai eue à Pâques de 2017, je crois. Mais j'étais encore dans un job avec beaucoup de responsabilités très prenantes. Et tant que j'étais à 100%, j'avançais vraiment pas du tout. Ou pas du tout au rythme où je voulais, donc c'était pas une priorité, on va dire, j'arrivais pas à mettre ça comme priorité dans ma vie. Ouais. Donc après ça, je suis passée à un temps partiel, je suis passée à un 8 ans, puis ensuite à un 60, et là j'ai pu vraiment accélérer, et puis maintenant ça fait 9 mois, non je dis des bêtises, ça fait 6 mois que j'ai plus d'autres occupations pour le moment, pour me donner les chances de vraiment lancer ça le plus vite possible. Mais c'est pas forcément que je ne retournerai jamais en temps partiel s'il y a besoin, il faut être ouvert. J'essaye de mettre le coup d'accélérateur qu'il faut, mais je prends ce qui vient en me donnant un maximum de chances.
Mais bien sûr, et tu as raison, je pense qu'il faut vraiment se laisser toutes les portes ouvertes et pas se mettre trop de pression. Rien n'est irréversible. Alors moi j'adore parce que je me revois encore lors de la séance d'info où tu es venue. C'était au tout début de l'antenne à Lausanne, quand on a ouvert Lausanne. D'ailleurs à cette séance d'info on était 4, tu étais venue avec une amie.
Oui,
et moi j'étais avec Sophie qui démarrait tout doucement sa mission d'ambassadrice lausannoise. Et à l'époque c'était vraiment une idée qui germait dans un coin de ta tête. Je me souviens que tu étais, et tu l'es toujours, mais pleine d'énergie, perpétuante, tu voulais faire bouger les choses, tu voulais sensibiliser les gens parce qu'ils ne se rendent pas compte, tes cosmétiques, mais si tu savais tout ce qu'on met sur nos peaux, c'est pas possible. Et je me souviens, c'était vraiment top. Et quand je vois aujourd'hui le chemin parcouru, je me dis que c'est vraiment génial. Donc, tu as commencé, tu dirais, c'était quoi les premiers pas que tu as posés? Toi, tu commençais à en faire un petit peu les cosmétiques chez toi.
En fait, je faisais déjà un certain nombre de choses chez moi. À la suite au fait de ces problèmes de peau, j'ai vraiment pris la claque en décryptant les étiquettes des produits que je consommais.
Ouais.
Et puis à partir de là, j'ai décidé vraiment de tout arrêter et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus naturel. Et donc du coup, je me suis petit à petit mise à faire certains trucs. Mais surtout, je ne voulais plus... Quand mon copain ou ma mère, elle me disait « Regarde cette super crème », je disais « Mais mets pas ça, c'est bourré de pétrole, tes testicules vont gonfler.
» Tu vas perdre tes cheveux.
Et donc, du coup, je me suis dit « Il y a vraiment quelque chose à faire au niveau de sensibiliser les gens sur les paquets de cigarettes. » Finalement, c'est mis que c'est dangereux.
C'est vrai.
Mais sur les cosmétiques, c'est pas mis que les risques que ça peut représenter. Et donc, du coup, c'est un peu parti comme ça.
C'est juste.
Et j'ai décidé d'entreprendre des formations pour apprendre à formuler des produits, parce que bien sûr qu'on peut prendre YouTube ou ce genre de trucs, mais il y a tout et de rien sur Internet. Et puis moi, je voulais vraiment quelque chose de pro, donc je voulais apprendre de gens qui avaient une véritable expertise au niveau scientifique aussi.
Ouais.
Donc j'ai commencé à regarder quelles formations je pouvais faire. En Suisse, il n'y a pas grand-chose, c'est très cher. Donc c'est passé par certaines formations en ligne, ensuite des formations en France, passablement. Et petit à petit, j'ai appris un nouveau métier, hein, parce que moi, je suis issue de... J'ai fait l'équivalent d'une école de commerce, donc j'ai fait la HEG, j'ai travaillé 10 ans en marketing. La cosmétique, c'est pas dans mes gènes.
C'est vraiment un changement 180 degrés, quoi.
Ouais.
Complètement. Ouais.
La seule chose que je me dis, c'est ma mère étant laborantine, je devais peut-être avoir une petite partie...
un petit gène pour l'ADN.
Qui me suivait, mais c'est en tout cas pas quelque chose que j'ai nourri... mon enfance ou l'adolescence ou même la toute jeune adulte. Donc après, ce que je me suis dit, c'était qu'il y avait deux choses que je pouvais faire assez rapidement quand j'ai commencé vraiment à nourrir le projet, c'était créer une communauté sur les réseaux sociaux.
Oui.
Parce que je me suis dit, ben, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Je peux partager pas mal de choses. J'avais beaucoup de produits que je fabriquais pas forcément moi-même, mais de partager des choses qui, moi, me plaisaient, mettre en lumière des marques, expliquer mes changements de vie, mon histoire, finalement.
Ouais.
Donc, j'ai commencé à faire ça. Et je me suis dit, bah, je peux faire, dès le moment où j'ai acquis la capacité de formuler des produits, je peux lancer des ateliers en partenariat avec des lieux comme des épiceries bio, des magasins vrac, ce genre de choses, parce qu'eux avaient aussi une communauté, donc allaient pouvoir promouvoir mes ateliers et me ramener du monde.
Très malin.
Et ça, c'est les deux choses que j'ai fait
que
au début.
Que tu as activé assez vite.
Exactement.
Okay.
Parce que ça ne nécessitait pas de site.
C'est vrai.
Et
pas trop de charges.
Pas trop de charges, exactement.
Ok, génial. Et alors, tu me disais, et j'ai trouvé que c'était très intéressant, on a pas mal échangé avant de commencer le podcast, tu me disais que justement, bah, les premiers mois, ça, c'était pas si simple que ça. Tu t'es rendu compte que ce chemin entrepreneurial, il y a eu des aspects auxquels tu t'attendais pas forcément et que c'était pas évident. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on en parle rarement. On a tendance parfois à un peu romancer, comme je te disais, ce chemin entrepreneurial où ça y est, j'ai lâché mon boulot, je vole de mes propres ailes et puis il n'y a plus que des oiseaux qui chantent et des papillons dans le ciel, n'est-ce pas?
C'est ça.
Et, puis, et puis en fait, bah, parfois, ce n'est pas tout à fait ça, quoi.
Ouais, alors non, en effet, c'est vrai que quand j'ai décidé d'arrêter mon job, je voyais ça en mode c'est bon, que du bonheur, la liberté, je vais exploser ma productivité, etc. Et au fait, je dirais que les premières semaines, t'es un peu dans l'euphorie du truc. Je posais gentiment mes jalons, je trouvais mes marques. Mais au fait, très rapidement, j'ai plutôt passé par une phase de déprime, un peu comme un postpartum.
Ouais, t'as vu, hein.
Vraiment. Je me suis rendu compte que, déjà 10 ans d'entrepreneuriat, ça laissait forcément une marque sur ta manière de penser.
10 ans de salariat.
Ouais.
Ouais. D'employé,
exactement.
Bien sûr.
Rien que le fait de me dire, il faut que je travaille de 9h à 18h. J'avais cette impression qu'il fallait que je le fasse.
Que tu répliques un petit peu cette vie qu'on a eu l'habitude en tant qu'employé. Ouais.
Après,
on est quand même formaté hein, quand on y pense.
C'est totalement ça. Après, le fait, je suis quelqu'un qui est créatif, j'ai beaucoup d'idées, donc c'est à la fois une force et à la fois, au départ, ça m'a un peu desservi parce que j'avais aucune idée comment mettre mes priorités. J'avais envie de tout faire. Et au fait, je me noyais complètement. Le fait d'avoir une vision assez claire, finalement, sur où je voulais arriver, mais de ne pas du tout avoir imaginé vraiment quel chemin j'allais prendre. Est-ce que je devais me consacrer sur des articles de blog? Je devais travailler sur ma gamme? Est-ce que je devais... Enfin, il y avait tellement de questions dans ma tête. Et finalement, j'entamais tout sans vraiment finir. Donc, assez peu de satisfaction personnelle. L'impression, je me disais, je vais passer de 60% à 100%. Donc, je vais gagner 40% de mon temps. Je n'ai pas du tout vu une 40% de productivité en plus. J'étais perdue. Vraiment, je me suis retrouvée. Au-delà de ça, je me suis aussi rendu compte, j'ai toujours dit, je suis quelqu'un, je n'ai pas besoin d'avoir un immense cercle autour de moi pour me sentir bien. Mais je me suis quand même rendu compte qu'avoir une ou deux personnes qui physiquement sont dans la même pièce que toi, ça fait beaucoup de bien.
Ça change.
Me retrouver chez moi à 8 heures, après mon petit-déj, limite en pyjama, ouvrir mon laptop.
Ouais.
Tu te retrouves à midi, limite t'es pas douché, t'as pas mangé et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là?
Exactement.
C'était très très difficile. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé parce que je pense que c'est justement pour pas être dans cette espèce d'illusion de « Ah ouais, non, mais je suis entrepreneuse, la vie est parfaite. » Non, c'est dur de se retrouver seule. C'est dur de les gens perdent le contact avec ta propre réalité aussi.
Bien sûr.
Donc, c'est très difficile. Donc, malgré tout, j'en ai parlé. J'ai la chance d'avoir quand même pas mal d'entrepreneurs autour de moi qui connaissent un peu ça, même si on est tous différents.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai quand même décidé de prendre un jour par semaine dans un coworking.
Ah ouais.
Pour me donner cette option, quoi. Si je vois que je suis down et que ce n'est pas un jour où j'ai vraiment envie d'être chez moi, même si je partage mon temps entre des rendez-vous clients, le labo, mais au labo, je suis seule aussi, tu vois,
la plupart
du temps. Donc, moi qui étais vraiment dans un boulot avec énormément de contacts et tout, j'ai quand même beaucoup ramassé.
Ouais, tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant et je te remercie pour ta sincérité parce qu'on en parle rarement. Et c'est vrai que tu n'es pas la première qui me parle d'une désillusion un peu postpartum, en effet, parce qu'on sait... on s'est un peu enjolivé, cette soudaine liberté, je vais me réaliser, je vais pouvoir faire ce que je veux quand je veux, je vais être mon propre patron, je ne rends plus de compte, etc. Puis en fait, la réalité, c'est que c'est pas si simple, quoi. Ça nous demande de l'assiduité, ça nous demande de l'autodiscipline. Son propre patron, ben, parfois, on est encore pire que notre ancien patron, hein, parce qu'on est dur aussi avec soi, donc on se culpabilise. Enfin, il faut trouver en effet cette espèce de rythme, d'équilibre. Et entre nous, ça peut même prendre parfois plusieurs années. Ah, moi, personnellement, je le cherche encore. Et je fais comme ça des tests de bon, ben ok, en fait, là, je bossais beaucoup trop. Donc maintenant, il faut que j'essaye de réduire. On essaye de reproduire quand même le modèle traditionnel. Parce que donc, on essaye de réavoir des week-ends. Mmh. Il y en a à qui ça va, il y en a avec qui ça va pas. Il y en a qui préfèrent ne travailler que les matinées. D'autres, en fait, c'est ça qui est difficile. C'est que trop de choix tue le choix. Ouais. Soudainement, en fait, tout est possible.
Voilà. Exactement.
On peut bosser de l'étranger. Bon, toi, ici, tu as quand même des choses physiques, mais les gens, en plus, qui sont dans le service et qui n'ont pas forcément besoin d'être là géographiquement, mais tout est possible. Tu peux même bosser de l'étranger. Ah bah tu peux même... Et du coup, bah, parfois, ça te tétanise, tout ce choix, quoi. Et en fait, je pense que ça, c'est l'enjeu aussi. C'est que bah, l'entrepreneur, il sort des sentiers battus. Et donc, ça vaut le coup d'aller jusqu'au bout de la démarche et de vraiment se dire ben, je ne vais pas essayer de répliquer ma vie d'employé, quoi. Parce que tu disais j'ai été bloquée dans cette pression du 9h-18h, j'avais l'impression que je devais remplir mes journées de 9h à 18h, et je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en effet, on a l'impression... Et comment est-ce que tu as fait? Alors, donc, le coworking, ça t'a aidé?
Le coworking, en effet, m'a aidé quand même d'avoir cette liberté. Donc déjà, c'est un chouette coworking qui est très libre. Donc ça veut dire que si je veux aller bosser 2 heures, j'y vais. C'est pas, voilà, je dois y aller un jour par semaine, puis c'est ce jour-là. Donc c'est un coworking qui laisse énormément de flexibilité. Donc ça, c'est très chouette. J'essaye quand même, j'ai suivi une formation d'une nana que j'adore sur internet, une formation sur l'organisation.
Ah ouais.
Où c'était un séminaire c'était une formation de 1h30 ou 2h, mais très très pratique. Il y avait 2 heures de vidéo, mais je pense que j'ai bien passé 10 heures de travail sur, tu sais, tu reprends un peu tout, tes valeurs, tes trucs. Bon, je pense que c'est toujours important de retourner.
Bien sûr.
Elle donnait vraiment les conseils de vraiment tout planifier, au fait.
Ah ouais.
Et de vraiment ne pas te laisser, même si à la fin du compte tu ne suis pas, mais en tout cas de te donner une sorte de ligne directrice qui permet que tu ne te perdes pas.
Mm-hmm.
Et du coup, c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai aussi revu mon business model sur certains trucs. J'ai l'impression d'être plus alignée avec ce que je veux, d'être plus aussi en confiance, un peu bien dans mes baskets. Tu sais, quand tu lances un truc au début, surtout quand tu es dans des produits, il te suffit d'un retour un peu peut-être négatif ou comme ça, ça te remet un peu tout en question. Tu te dis, mais vas-y, ce que je fais, c'est pas bien.
Mm-hmm.
Donc, voilà, la chance que j'ai, c'est que j'ai aussi eu beaucoup de retours et en général très positifs. Donc, ça m'a aussi donné une certaine légitimité ou de me dire, je sais que ce que je fais, c'est bien, etc. Donc, maintenant, je suis plus à me dire, je fonce et à finalement... avoir défini aussi à l'aide de mon compagnon, parce qu'il est un peu dans... Il fait partie intégrante de cette histoire. Il est très dans l'ombre, mais
il est à mes côtés.
Et puis, c'est lui qui est le chef de la production des savons, j'aime toujours dire ça. et puis, à un moment, je me rappelle, on était dans le sud de la France, puis on rentrait en TGV, puis j'ai dit, écoute, regarde, toutes ces tâches-là, mais je fais quoi en premier? Je n'arrive pas à décider. Et au fait, on a vraiment regardé, on a fait une matrice en fonction de est-ce que c'est money maker ou pas.
Pas mal.
Et est-ce que c'est facile à faire ou pas? Et donc, du coup, on a tout posé dans ces 4 cases. Et puis, il m'a dit, regarde, tout ce qui est money maker est facile. Tu vas prendre ça d'abord. On a regardé aussi après, pour chacune de ces tâches, on a estimé le temps. Et on a pris en fonction ce qui était le plus facile à faire et le moins gourmand temps. J'ai commencé à le faire en premier, etc., etc.
C'est vachement bien ce que tu me dis.
C'est
parce
cool.
Que du coup, ça fait vraiment step by step.
Ouais.
Et en fait, vous avez détourné le sommet de la montagne. Au lieu de se dire, il faut tout de suite qu'on ait des gammes de scie avec tant de produits différents. Non, c'est qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est dans nos cordes.
Exactement.
Et qu'est-ce qui peut nous faire rentrer de la trésorerie assez rapidement pour ensuite aller chaque fois plus loin.
C'est ça, ouais.
Vachement bien.
Ah, il est intelligent, ce mec.
Oh, je pense que sa femme est pas mal non plus. Mais dis-moi un peu, alors c'est drôle parce qu'on parle quand même, tu me disais, la validation des autres, donc assez rapidement, tes premières clientes ont validé ton produit, donc tu as eu cette confiance-là. Mais d'entrée de jeu, toi, tu es quand même quelqu'un qui est... qui n'a pas trop eu peur du regard des autres. Tu avais besoin de la validation client, mais de ce que pouvait dire ton entourage, le fait que... Parce que parfois, sortir des sentiers battus, ce n'est pas facile. Il y a le jugement des autres, il y a ce que nous renvoient les autres sur leur propre peur, etc. Toi, tu m'expliquais justement qu'en fait, assez tôt, tu as compris que tu ne faisais pas partie de la norme et c'est un truc que tu as accepté. Et ça, ça m'a beaucoup impressionnée. Moi, je n'étais pas comme ça, adolescente. Raconte un petit peu.
Ouais, alors en effet, en fait, je me suis. Il y a eu certains événements de ma vie assez jeune, on va dire, entre la petite enfance et l'adolescence, qui m'ont fait me prendre conscience que dans la vie, c'est soit elle te balade où elle veut elle, soit tu la tiens et tu l'amènes toi un peu où tu veux. Donc, je me suis vite rendu compte que finalement, faire comme tout le monde, suivre des voies qui certes paraissent être la logique, mais qui ne me correspondent pas, ce n'était pas pour moi. Donc, après,
Et comment est-ce que tu gérais ça, adolescente ? Parce que ça fait peur parfois quand on se rend compte et on se dit, mais en fait, ce chemin qui semble tout tracé, moi, ça ne me dit rien du tout. Et, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que tu n'avais pas ces peurs de se dire, oh là là,
ça va être compliqué ? Alors, je t'avoue qu'au départ, j'ai quand même eu un schéma classique. J'ai fait des études, j'ai quand même fait 10 ans en entreprise, etc. Donc, c'était plus au niveau de ma personnalité. J'ai toujours été quelqu'un... assez dans la contradiction. Ma mère le dirait bien. Je me disais, il faut faire ça. J'allais te dire, non, je veux faire le contraire.
D'accord.
Et du coup, j'avais pas peur du conflit et du regard des autres.
Ok.
Je me suis toujours dit, ce qui compte, c'est que je sois bien avec moi. Et puis, si toi, ce que tu veux faire, ça te convient, tant mieux. Mais moi, si j'ai pas envie de le faire, je vais pas le faire. Je suis quelqu'un, en fait,
c'est
qui
génial.
Respecte énormément l'opinion des gens, être soi. Et puis, tu es comme tu es, je te prends comme tu es.
Ouais.
Et moi, je suis comme je suis. Je ne vais pas chercher à être comme toi parce que c'est plus simple. Mais je demande aussi que, on me prenne comme je suis, avec mes qualités, mes défauts. Enfin, c'est vraiment, en fait, quand je réfléchis et quand je t'en parle, c'est juste un respect, finalement, de chaque individu et de... si les personnes ne te conviennent pas, tu les fréquentes pas, simplement.
Exactement.
Donc, moi, c'est vrai qu'il y a certaines personnes que je trouvais, qui étaient à un moment dans ma vie qui étaient trop négatifs ou qui, finalement, je me rendais compte qu'ils ne m'apportaient pas grand-chose et que je ne leur apportais pas grand-chose. Simplement, je me suis gentiment éloignée de ces personnes pour rester avec des personnes qui me stimulent et que moi, je stimule en retour, même si on ne va pas être d'accord sur tout, même si on va avoir des conflits, des débats. Moi, j'aime bien finalement les gens qui disent ce qu'ils pensent et puis on a le droit de ne pas être d'accord, encore une fois, tant que c'est dans le respect d'autrui.
Ouais.
Donc vraiment, ce mot respect ressort énormément. Mais je pense que c'est ces événements de la vie qui ont fait que je me suis dit, j'ai pas envie de suivre les traces de quelqu'un d'autre. En fait, j'ai envie d'être moi. Et puis je me suis retrouvée, malgré moi, dans plein de situations où les gens choisissaient vert et moi je disais, moi c'est rouge.
Ouais, que puis, ça vous plaise ou pas,
voilà,
quoi.
Exactement.
Ok, génial. Et tu dirais que ça, c'est certainement une qualité de l'entrepreneur, non ? Je pense qu'à un moment, il faut oser se faire assez confiance, quitte à ce que ça déplaise.
Ouais.
Moi, j'ai le sentiment quand même que quand on se lance dans un projet, on a sa propre vision. Elle collera peut-être pas avec celle des autres. Et je trouve que c'est pas facile. Mais c'est un des enjeux où je vois quand même qu'à un moment, on va créer notre propre chemin, quoi. Et donc, potentiellement... on va peut-être un petit peu se heurter à déplaire à certaines personnes ou à pas rentrer dans le moule, on va dire.
Ouais. Mais après, j'ai envie de dire, c'est le mot genuine.
Mais exactement, ma chère. Et je suis ravie que tu fasses le lien.
C'est soi-même, être authentique.
Exactement.
Et on plaira à certaines personnes et pas à d'autres. Si tu commences à essayer de jouer le rôle d'un tel parce que tu la trouves sympa sur les réseaux sociaux, ça reste pas toi. Donc... bien évidemment qu'on peut toutes s'inspirer les unes des autres. Moi-même, tu vois des posts, tu dis « Ah, c'est trop cool, j'ai envie de faire quelque chose à ma sauce. » Mais si c'est pour répliquer ce que quelqu'un d'autre fait…
Je suis tellement d'accord.
Ça ne marchera pas.
Non.
De toute façon, ça ne paraîtra pas authentique
et
naturel.
Et en plus, ça ne marche pas. Moi, je pense fondamentalement que ton projet, c'est une partie de toi, c'est ton énergie, c'est tes tripes et que c'est en étant aligné et en étant fidèle à toi-même que là, ça va avoir du sens. Et comme tu dis, si tu te fourvoies, si tu ne te respectes pas pour coller à ou essayer de recopier je ne sais pas quoi, ça n'aura pas l'impact que tu veux avoir dans le monde. Mais ça, je suis sûre. Ça, je le vois, moi. Et ce n'est pas facile. Ça demande vraiment d'assumer, parfois de se positionner, d'aller jusqu'au bout de son délire. Mais pour moi, c'est ça. Et c'est ça aussi le côté genuine, vraiment authentique, véritable. Pour moi, l'entrepreneur, c'est ça. C'est la personne qui...
finalement, c'est peut-être le job à faire en tant que femme entrepreneur avant de lancer un projet, c'est d'arriver à assumer qui on est et de se dire, ben c'est voilà, avant juste. Tout, je ne veux pas dire que ça me paraît un peu bizarre parce qu'on parle tout le temps en marketing, de niche, machin, truc. Mais d'abord, le projet, tu le fais pour toi. Il doit coller à toi. Ouais. C'est quelque chose que tu vas respirer pour les touches du bois 50 prochaines années de ta vie. Donc, ouais, je pense que vraiment de se dire, voilà, je suis alignée. J'ai trouvé quelque chose qui résonne, mais avec moi et avec mon moi profond et pas juste avec mon apparence.
Exactement. Pas avec mon moi égo qui pense que c'est ce que...
Ouais, tout à fait. Ça va le faire, ça va me faire sentir bien et tout. Non, il faut que ça soit profond, quoi. Ça doit être un peu une mission de vie, d'une certaine manière.
Je suis d'accord avec toi. Et du coup, je suis ravie que tu as entamé le sujet du réseau. Est-ce que tu es une genuine très dynamique? Tu t'es vachement impliquée, très investie. Je sais que tu as fait plein de choses. Si je devais te demander un ou deux exemples, qu'est-ce que le réseau a pu t'apporter? Des rencontres que tu as faites, des échanges? Je pense que ça t'a quand même... Tu as fait appel, tu as activé beaucoup d'outils. Tu es une nana, je trouve, qui se donne les moyens de réussir. Moi, je crois que dans la vie, il y a cette fameuse phrase qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tu n'as pas attendu sur ton canapé que ça tombe du ciel. Et qu'est-ce que tu pourrais dire? Alors, je sais que tu as fait d'autres formations, mais dans le réseau Genuine, qu'est-ce qui t'a aidé aussi un petit peu à mettre le pied à l'étrier?
Alors, de manière très large, quand même l'entraide.
Ouais, c'est sûr.
Bah, tout bêtement, le groupe Facebook, si on veut parler vraiment
c'est
business.
C'est vrai, tout à fait.
Le fait de se dire qu'on a passé 700 femmes qui font partie du réseau et que si tu as une question, elles l'ont forcément vécu.
Ouais.
Et je trouve cette bienveillance, cette gentillesse... cette non-concurrence que
exactement.
Tu voulais, finalement, on le ressent et ça, c'est vraiment chouette. Et de se dire que voilà, moi j'ai fait des superbes rencontres, aussi dans les moments où tu es down, c'est génial de pouvoir te dire que tu as des amis.
Mm-hmm.
Donc, de manière très large, ça. Après, j'ai suivi quand même quelques workshops, quelques formations qui étaient très chouettes et très utiles. Et je vais pas mentir, c'est grâce à toi, j'ai fait quand même la rencontre qui, pour moi, a énormément propulsé mon business au départ, à savoir Isaline de Thérèse and the Kids, qui, c'était pas du tout parti dans une idée, et ça l'est toujours pas, de relation business, mais tu nous as mis en relation, on a bien accroché, je lui ai fait des produits plus pour finalement avoir un retour qu'autre chose. Et c'est vrai que comme ils lui ont plu, elle en a parlé à sa communauté. Et je lui dis toujours, Isaline, je te dois tous mes premiers clients hors de mon cercle de connaissances viennent énormément d'elle.
C'est génial. Donc, et comme quoi, parfois, ça, je suis d'accord avec toi, une ou deux rencontres clés peuvent vraiment changer la donne. Et c'est drôle, je me souviens, je revois encore cette story d'Isaline qui disait « Mayday, je cherche des gens qui font des cosmétiques naturels parce que potentiellement, j'ai une idée d'atelier où elle avait un projet autour de ça. » Et tout de suite, c'est vrai. Donc,
c'est génial.
C'est vraiment des retours qui sont précieux. Et puis, j'aimerais bien terminer sur une petite note où, justement, s'il y a une nana qui t'écoute à l'heure actuelle, qui a une idée qu'elle pense un peu folle dans un coin de sa tête, mais qui n'ose pas et qui se dit « Oulala, mais alors moi, je ne suis pas comme toutes ces filles, ça, ce n'est pas pour moi », qu'est-ce que tu lui dirais?
Je dirais déjà qu'aucune idée n'est folle. Dès le moment où elle l'a eue, ça vaut la peine de creuser. Je pense qu'il faut... Mes conseils, c'est bien s'entourer. Donc, faire partie d'un réseau comme Genuine, ça peut clairement aider parce qu'on est 700 nanas qui sommes à des stades plus ou moins avancés de notre business et où on sera toujours contente d'aider. L'autre chose que je dirais, c'est qu'il faut investir pour se former. Mais faire attention quand même. Une chose, moi j'entends plein de nanas qui justement investissent tout dans leur nouvelle formation et omettent complètement le côté commercial. Donc si c'est pas votre gamme, le marketing, la vente et tout, gardez un peu de budget pour vous former là-dedans parce que vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si il n'est pas vu et que vous savez pas le vendre, ça marchera pas.
Bravo, parce qu'on oublie un peu ça. On est là, on part dans des stratégies hyper compliquées, mais la base de la base, c'est quand même la vente, quoi. Il y a un moment, il y a une réalité, notre produit ou notre service, il faut le vendre.
Ouais.
Et ça demande en effet des moyens. T'as raison. Donc, si en plus, on passe tout dans des formations...
Pour notre nouveau truc. Et puis, finalement, ne pas hésiter à créer une communauté bien en amont. ouais. de lancer le produit ou le service. Moi, je l'ai vraiment fait, même que je viens du milieu du marketing, honnêtement, je n'y avais pas vraiment pensé et j'étais extrêmement surprise que dès le moment où j'ai commencé à parler de ce que j'allais faire, ben, j'avais un vrai retour sur les réseaux sociaux. Et ça me surprend toujours de me dire, mais les gens sont prêts à t'acheter des choses alors que tu n'as pas de site, alors ouais. que toi, tu te sens encore totalement illégitime. Mais le fait que tu aies montré quand même une certaine expertise, que tu aies créé quelque chose, bah du coup, et ton message leur parle, du coup, bah, ils sont beaucoup plus enclins à ensuite venir
Exactement.
Vers toi.
Exactement, ton message leur parle, puis la personne aussi.
Ouais.
Parce que toi, tu es très authentique sur les réseaux, enfin, voilà, il n'y a pas de filtre, et donc on s'attache aussi à toi, à ton histoire, et on se dit, mais en fait, moi, cette fille, j'ai confiance, j'ai envie de lui acheter son produit, parce que si elle me dit, elle, que ça a marché pour elle, ou qu'elle l'a fait avec le cœur, etc., mais c'est vrai que c'est quelque chose qui met quand même les gens, ça ne m'étonne pas que la communauté ait pris très vite, ça met les gens en confiance et ça donne envie. Et du coup, Green Beauty Square, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? C'est quoi les next steps?
Ah, alors, déjà, on peut lui souhaiter, tout le meilleur. Amour, gloire et beauté.
Exactement, je suis d'accord.
Alors, les next steps, c'est de sortir. Donc, je suis sur trois gammes de niches parce que c'était un souhait de ma part de plutôt faire quelque chose de spécifique au niveau des produits que de faire du très générique.
Génial.
Donc là, j'ai une première gamme qui va sortir normalement à la fin du mois d'août.
Okay.
J'ai tout, les étiquettes en production, les textes que je suis en train de mettre sur le site et tout. Donc on croise les doigts.
Qu'on pourra retrouver où?
Alors, sur le site greenbeautysquare.com. Ouais. Et puis sur mon Instagram aussi, j'en parlerai forcément, enfin aussi Facebook, etc. Et puis j'ai mon laboratoire dans le concept store qui s'appelle Les Gens au Valentin à Lausanne. Et il y aura certains produits qui seront vendus. Donc, je vais mettre un petit panneau fabriqué ici.
Mais oui, c'est génial.
Super local. Et puis après, je vais sortir ces deux autres gammes. Et puis, j'ai plein d'autres idées, mais entre guillemets, une chose après l'autre. C'est
quelque
chose que j'ai appris. C'est-à-dire que trop d'idées, ça pollue les idées qu'il faut accoucher tout de suite.
Ouais.
Donc déjà, je vais sortir mes trois gammes, arrêter encore et peaufiner mes services d'accompagnement. Donc tout ce qui est vraiment j'aime pas trop ce mot, mais coaching en beauté naturelle, etc.
Ouais.
Aller faire des ateliers peut-être un petit peu plus loin en Romandie. Et puis après, développer la suite des idées. Mais je croise les doigts, même si je pense que rien n'est dû au hasard. Donc je vais travailler mon mental, travailler sur mon ordi, travailler au labo, et puis voilà.
Mais le travail paye, moi ça j'y crois fondamentalement. Et alors du coup, on retrouve aussi, donc bien sûr, il y a tes produits, les gammes, etc. Mais on retrouve tes conseils à travers un blog et une chaîne podcast.
Alors la chaîne podcast, c'est avec Isaline, donc c'est vrai que c'est génial de pouvoir d'avoir pu créer ce podcast qui s'appelle Spread the Green, qu'on a un mardi sur deux. Au fait, on est vraiment dans une discussion entre copines dans notre salon et puis en 5 minutes, on parle d'un sujet comme par exemple, est-ce que la crème hydratante hyydrate vraiment? Par quoi est-ce qu'on peut remplacer un tonique? Donc, on a vraiment les sujets green au sens large, que ça soit beauté, un minimum de zéro déchet aussi, donc vraiment minimalisme. Un peu tout pour un mode de vie éco-friendly et slow, on va dire. Donc
très
ça,
bien.
C'est vraiment chouette. Vous pouvez retrouver le podcast. Elle a créé, Isaline, un compte Insta qui s'appelle Spread the Green. Et puis sur le site Green Beauty Square, si même moi je n'y arrive plus, il y a aussi une section blog où en effet, mon but, c'est de faire mal d'articles pour sensibiliser. Je vais faire aussi des interviews de personnes plus ou moins, stars, j'aime pas trop ce mot non plus, mais des blogueuses, des créatrices de marques. Et puis, j'aimerais aussi interviewer des clientes à moi si elles sont motivées. Donc, c'est toutes des choses qui vont se développer à l'avenir.
Ah on se réjouit de suivre ça. Bon, moi, je te remercie
merci
parce que
tu as
été mon premier podcast, ma belle, d'une longue aventure, j'espère. Donc, affaire à suivre. Merci beaucoup.
Merci à toi pour ta
confiance.
À bientôt.